Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer la SLA, ou sclérose latérale amyotrophique, encore appelée maladie de Charcot. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Marie-Hélène Soriani. Docteur Soriani, bonjour.
Bonjour.
Docteur Soriani, vous êtes neurologue au sein du service de neurologie de l'hôpital Pasteur du CHU de Nice. Et vous êtes également responsable du centre de référence SLA et autres maladies rares du neurone moteur du CHU de Nice, sous l'égide de la filière FILSAN. Alors, avec vous, docteur Soriani, nous allons aborder l'aspect diagnostique de la maladie. Et pour débuter notre entretien, devant quels signes d'appel suspecter une SLA ?
Pour bien identifier les symptômes de la maladie, il faut avoir en tête que la SLA, c'est une maladie neurodégénérative, donc progressive, et qui touche les neurones moteurs et qui, par conséquent, va être responsable de symptômes moteurs. Donc, ces symptômes qui sont généralement insidieux au début peuvent concerner les muscles squelettiques des quatre membres et donc être responsable, si cela touche les membres inférieurs, d'une boiterie, d'un pied tombant, de difficultés à monter les escaliers, par exemple, ou bien s'il s'agit d'une atteinte des muscles des membres supérieurs, d'une maladresse gestuelle ou de difficultés à lever les bras. Les premiers symptômes peuvent également concerner des muscles d'innervation bulbaire et à ce moment-là engendrer une dysarthrie ou une dysphagie. C'est ce que l'on appelle le syndrome bulbaire. Enfin, il faut savoir que très rarement, les symptômes initiaux peuvent être respiratoires, à ce moment-là caractérisés par une dyspnée d'effort, par atteinte des muscles respiratoires, ou bien atteindre les muscles axiaux et à ce moment-là être caractérisés par une camptocormie ou une tête tombante. Donc voilà globalement les signes d'appel de cette maladie.
Et ensuite, devant ces signes d'appel, comment poser le diagnostic de cette maladie rare ?
Le diagnostic va reposer à la fois sur la clinique et sur les données de l'électroneuromyogramme. Cliniquement, le diagnostic repose d'une part sur les critères anamnestiques, comme on l'a vu précédemment. Il s'agit d'un déficit moteur qui est progressif, parfois associé à des crampes et parfois associé, dans environ 50% des cas, à une perte de poids qui est souvent inexpliquée. D'autre part, le diagnostic va reposer évidemment sur des signes à l'examen clinique qui vont traduire donc l'atteinte du neurone moteur périphérique et du neurone moteur central. L'examen clinique va donc confirmer la présence d'une amyotrophie, d'un déficit moteur qui sera pur et ou d'un syndrome bulbaire. Souvent, on va observer des fasciculations qui sont généralement à la partie proximale des membres. Et puis, on va également rechercher des signes d'atteinte du neurone moteur central, donc un syndrome pyramidal qui va être caractérisé par des réflexes ostéotendineux vifs, parfois la présence de spasticité, surtout au niveau des membres inférieurs. Il faut cependant bien garder en mémoire que le syndrome pyramidal peut faire défaut et que ça ne doit pas formellement exclure un diagnostic de sclérose latérale amyotrophique. Cliniquement, il faudra noter qu'il n'y a pas de déficit sensitif et pas de trouble vésico-sphinctérien important. Et puis, l'examen complémentaire qui va confirmer le diagnostic, c'est l'électroneuromyogramme, sur deux critères. D'abord, l'absence d'anomalie de conduction en stimulodétection, et en détection, la présence de fasciculations ou d'activités spontanées au repos et la présence de tracés neurogènes chroniques à l'effort.
Et quels sont les principaux diagnostics différentiels à écarter cette fois ?
Globalement, je dirais que devant un syndrome bulbaire, dysarthrie, dysphagie, parfois dysphonie, il y a deux principaux diagnostics différentiels qu'il faut écarter. Le premier, c'est la myasthénie, qui d'ailleurs peut être une urgence thérapeutique s'il existe des fausses routes ou des symptômes respiratoires. Donc c'est vraiment un diagnostic différentiel à avoir en tête. Souvent, c'est le caractère fluctuant des symptômes qui doit faire suspecter ce diagnostic, mais il faut vraiment l'avoir en tête. Le deuxième diagnostic différentiel devant des symptômes bulbaires, eh bien, c'est l'atteinte du bulbe rachidien ou des nerfs crâniens. Qui doit faire pratiquer une imagerie. Devant des symptômes moteurs au niveau des membres, il faudra bien évidemment éliminer une atteinte médulaire, notamment une myélopathie cervico-arthrosique ou une atteinte encéphalique. Et puis, lorsqu'il existe un déficit au niveau des membres, rechercher une neuropathie ou une polyradiculoneuropathie, surtout s'il n'y a pas de syndrome corticospinal franc cliniquement. Donc, trois examens seront à réaliser en première intention, l'électroneuromyogramme, l'IRM cérébrale qui sera systématiquement réalisée, et enfin, une IRM médulaire qui sera réalisée sur le segment cervical si les signes moteurs touchent les membres supérieurs, et l'IRM médulaire sera cervico-dorsolombaire si les signes touchent uniquement les membres inférieurs.
Alors, vous l'avez évoqué, Dr Soriani, la SLA est une maladie progressive. Comment évaluer l'urgence de prise en charge lors du diagnostic ?
Alors, en effet, lors du diagnostic, il est important d'identifier des symptômes qui justifient à ce moment-là d'une prise en charge dans les délais les plus brefs. Globalement, quatre symptômes doivent alerter le clinicien et faire orienter le patient très rapidement vers un centre SLA. C'est d'abord une aggravation rapide des symptômes, parce que ça traduit une forme d'évolution rapide et donc la nécessité éventuellement de discuter de mise en place de suppléance vitale rapidement. Le deuxième critère, c'est la présence de symptômes respiratoires, notamment une dyspnée au moindre effort ou une orthopnée, qui doivent amener à discuter la mise en place rapide d'une ventilation non-invasive avant que ne survienne une décompensation respiratoire. Le troisième symptôme, c'est la dysphagie. En effet, la dysphagie peut conduire à un risque de fausse route et des conséquences de ces fausses routes, qui sont notamment évidemment la fausse route asphyxiante, mais également la pneumopathie d'inhalation ou tout simplement l'encombrement des voies aériennes supérieures. Donc ces situations vont justifier de discuter rapidement de la mise en place d'une gastrostomie. Et puis enfin, le quatrième critère qu'il ne faut pas négliger, c'est la perte de poids. En effet, on sait que la perte de poids, c'est un facteur pronostic péjoratif, et donc une perte de poids va nécessiter sans attendre une prise en charge nutritionnelle adaptée.
Alors pour conclure notre entretien, Dr Soriani, une fois ce diagnostic posé, quel est le devenir des patients ?
Une fois qu'on a posé le diagnostic ou qu'il y a une forte suspicion diagnostique qui nécessite une confirmation, je pense que sans attendre, il faut adresser les patients vers un des 19 centres SLA répartis sur le territoire en France, dont un centre à La Réunion. Et ce pour plusieurs raisons. D'abord, un diagnostic précoce va conduire à une prise en charge thérapeutique précoce. Aujourd'hui, nous avons un seul traitement neuroprotecteur qui est commercialisé en France, mais il faut savoir que deux autres traitements qui sont déjà commercialisés outre-Atlantique et qui sont en essai thérapeutique de phase 3 en France, il est bien évident que si l'essai de phase 3 confirme que ces traitements peuvent être efficaces dans la SLA, le ralentissement de la maladie sera d'autant plus significatif que le traitement est initié précocement. La deuxième raison d'adresser ces patients sans attendre vers un centre spécialisé, c'est que ça va permettre également aux malades d'avoir accès à un diagnostic génétique, et y compris dans les formes sans antécédents familiaux de SLA. En effet, on sait aujourd'hui que 5 à 10% des SLA qui se présentent comme des cas sporadiques sont porteurs d'une mutation dans un gène causal. Nous avons aujourd'hui à disposition une première thérapie génique pour les SLA mutés SOD1. Donc, c'est une première, vraiment une révolution dans ce sens que nous avons une première thérapie génique aujourd'hui disponible. Et que par ailleurs, il y a également des essais thérapeutiques qui sont en cours pour d'autres thérapies géniques et qui pourraient donc concerner d'autres formes génétiques de la maladie. Donc, par conséquent, pour les raisons que je viens d'évoquer sur le plan des progrès sur le plan thérapeutique, il est extrêmement important d'adresser ces patients vers un centre SLA.
Eh bien, merci mille fois, Dr Soriani, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est la sclérose latérale amyotrophique. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions pour votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite.